Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 18 octobre 2025. On se retrouve aujourd'hui avec un BTC sous les 107 000 $ et on va voir dans un instant que c'est vraiment la pente glissante là, c'est la porte ouverte malheureusement aux 100 et quelques. Et si les 100K ne tiennent pas, bon, ça va commencer à devenir très très compliqué pour cette fin d'année. Donc pour l'instant, on est dans un range, on va pas s'avancer là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a quand même une dégradation petit à petit qu'on pressentait déjà précédemment. On sentait à 125 que ça commençait un petit peu à s'essouffler. On avait toujours ce rêve de se dire 130, 140, 150 pour la fin d'année, chose qui peut-être sous certaines conditions pourrait arriver, mais aujourd'hui je suppose que quand on regarde les choses en face, on est à minima voilà, sur cet équilibre 50-50 en l'état, voire même petit à petit, très certainement que les vendeurs malheureusement sont en train de reprendre la main. En tout cas au niveau de ce top 25, on voit qu'on est toujours léger dans le rouge en hebdomadaire, tandis qu'en journalier eh bien ça reprend un peu ses marques. On a Tao qui repart à plus 10% en direction des 400 $ qui continue d'être soutenu, 6% pour Uniswap, également pour Ethena, toujours en daily, Ethereum classique, 12% pour Story, 2,27% pour Atom Cosmos, mais qui s'est complètement fait pulvériser, hein, il est à moins 31%. D'ailleurs, à partir du top 30, on a des reculs de moins 30% encore en hebdo, moins 45% pour WorldCoin, moins 42% pour Arbitrum, donc les alts qui se sont fait pulvériser là, sur la soirée du 10 au 11 octobre ne sont toujours pas revenus à flot. On a certes eu certains qui ont bénéficié d'un rebond qui était assez stratosphérique, mais derrière on voit que le traumatisme reste et que bah, peut-être on aura aussi de nouveau des cadavres qui vont sortir du placard du côté des plateformes ou des échangeurs ou des market makers. Ce genre de situation peut mettre un petit peu de temps finalement à être démêlé. Le top 60 se clôture avec Nexo Sequant avec 1,20 milliard de capitalisation, donc là aussi on est toujours en léger recul. Quand on observe au niveau du 4 heures, donc après avoir eu les 126K, eh bien on est revenu travailler autour du support des 110-112, on a fait un micro-pump à 115-118, ça n'est pas passé et derrière on s'est fait enfoncer en direction des 103. D'ailleurs on a failli retester hein, la mèche basse autour des 102, voire pourquoi pas les 100. Le dernier recours du dernier recours serait de venir mécher sous cette zone des 100, c'est-à-dire autour de 98, voire grand maximum, je ne sais pas, quelque part autour de 95. Mais clairement, toute clôture, que ça soit journalière, hebdomadaire, encore pire, etc., sous cette zone des 98 à 100, 102, ça voudrait dire que potentiellement, oui, on risque de rentrer en bear market. Donc pour l'instant, le range risque d'être joué entre 100, 102 et la médiane autour de 112, 115 et la borne haute des 120, 125. Mais voilà, ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attendait pour cet automne et encore moins pour octobre. Ceci étant dit, comme certains l'avaient bien noté, septembre a été plutôt boule, alors que d'habitude c'est un mois dégueulasse pour le marché crypto et les marchés en général. Et là on a eu un mois d'octobre donc qui dans un premier temps a été très positif et immédiatement à compter de l'approche de cette quinzaine du mois d'octobre finalement a déroulé dans le rouge. Le Crypto Fear and Greed est à 3 points de passer dans l'extrême peur, donc là aussi vous en tirerez les conclusions que vous souhaitez. On était resté la dernière fois avec le CEO de BlackRock qui venait de déclarer qu'ils sont en train de développer leur propre techno au sujet des actifs tokenisés. Benjamin Cohen qui met en avant qu'on devrait approcher, selon Jérôme Powell, la fin du QT, donc du quantitative tightening, c'est-à-dire la contraction de liquidité. Donc peut-être que c'est ça qui pourrait nous offrir un petit peu mieux d'ici la fin d'année si on venait à avoir une baisse de taux plus du QT qui se termine finalement, sans même parler de QE, c'est-à-dire d'imprimer de la monnaie comme on a eu en 2020. Ça serait vraiment si d'un seul coup les marchés s'enflamment et que tout part à la baisse dans des proportions monstres. Eh bien finalement la Fed est un peu là pour faire les pompiers et donner un petit peu d'air au travers de la liquidité. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais bien entendu si on venait à avoir une dégradation, ça serait tout à fait de l'ordre du possible, donc il ne faut jamais dire jamais, mais là immédiatement on est encore très très loin. Les entreprises cotées ETF détiennent désormais plus de 12% de l'offre totale de Bitcoin. C'est assez énorme. LVMH, il y a 3 jours, donc, qui prenait 12% à l'ouverture, le secteur du luxe, qui a bien rebondi côté France et Europe, c'est plutôt cool. Avec Goku, le géant bancaire français Odo BHF annonce le lancement de son stablecoin adossé à l'euro, l'euro D. Le stablecoin répondrait aux exigences réglementaires MiCA et il s'adresse à la fois aux particuliers et aux utilisateurs institutionnels. Le gold, qui n'a eu de cesse de continuer de progresser, on verra dans un instant au niveau de l'analyse technique, on a des gens du côté des États-Unis notamment, qui sont en train de faire la queue littéralement comme nos mèmes quand on a des images en crypto en mode oui, le Bitcoin à 3000 c'était pas intéressant, le Bitcoin à 20 000 c'était super intéressant, ou on peut le transposer au niveau des prix de ce cycle bien entendu, mais là pour le gold c'est littéralement ce qui est en train de se passer. Les gens sont en train de se ruer, il y a des queues dans les rues aux États-Unis et dans d'autres pays pour acheter de l'or à n'importe quel prix. Donc c'est vraiment la définition pure et dure du FOMO que vous avez sous les yeux, alors que le cours est vertical depuis des semaines, des mois, et finalement ça risque de déclencher bel et bien le top local bien entendu. Comme on l'avait vu aussi la dernière fois avec Yongju, finalement les traders particuliers prennent de plus en plus de risques, puisqu'ils sont passés ces dernières années de 6 000 $ sur leur pari en général à peine 2 000 aujourd'hui, donc sur les futurs Bitcoin. C'est quelque chose ça aussi à prendre en considération de notre côté, c'est ce qui démontre que on a de plus en plus de leviers et de plus en plus de risques, et c'est ce qui déclenche aussi ces mouvements complètement fous qu'on a vu la dernière fois avec 19 milliards et 1,6 million de traders liquidés en même pas 2-3 heures de temps. Max Zacardic met en avant que Goldman Sachs compose désormais son portefeuille monde avec 1% crypto, il y a 49% pour les equities, donc les actions, 37% en bonds, donc très certainement à la fois un peu d'entreprise et à la fois tout ce qui est bon au trésor, hein, notamment aux États-Unis, mais pas que. Le gold 6%, le marché privé 5%, l'immobilier 2% et enfin la crypto 1%. Donc ça vous donne la répartition d'une des top tiers banques et gérants de fonds mondiaux. Un graphique avec le gold spot par rapport au gold ETF mis en avant par Fineco. Donc on voit qu'on a une décorrélation assez majeure pour le coup. Et donc aujourd'hui, on se pose tous la question de quand est-ce que le gold va top, puisque on est arrivé à un franchissement avec un gold qui approchait les 4 400 $ l'once, des, accrochez-vous bien, 30 000 milliards de market cap. Donc c'est complètement fou hein, pour le coup de se dire qu'aujourd'hui on avait un gold je crois en 2022 qui était à 1 600 $ l'once, quelque chose dans ces eaux-là, donc une progression qui est folle, un market cap qui l'est encore plus, et un Bitcoin qui aujourd'hui lui est plutôt autour de 2 000 milliards par rapport aux 30 000 du gold. Donc comme disaient des prévisionnistes, si un jour on vient ne serait-ce qu'à la moitié du market cap du gold pour le Bitcoin, voire même l'entièreté du marché crypto, ça serait énorme ici, mais on voit qu'on en est encore très très loin. Vous avez une petite publication que je vous invite à lire et on recevra très prochainement en live, vous pourrez lui poser vos questions, Alexandre Lourimi, avocat fiscaliste spécialisé crypto, par rapport à notamment ces fameuses réglementations qui vont entrer en vigueur en 2026 pour les particuliers et qui vous obligent vraiment, là j'insiste sur ce point, pour 2025 à déclarer vos comptes ouverts à l'étranger, sinon ça va vraiment être très très compliqué, puisqu'aujourd'hui on va passer d'une administration fiscale qui devait faire des requêtes tout azimut pour avoir des informations, c'était très lent et très pénible certainement, à une vue omnisciente sur absolument tout ce que vous avez fait sur les échangeurs centralisés. Toutes les datas vont leur remonter de façon automatique pour les PSAN, pour les MICA, pour tout ce qui va bien. Donc vraiment faites très attention à ça, puisque comme décrit dans le post, à la fin vous pouvez quasiment payer plus que ce que vous avez eu, ou au moins la totalité de ce que vous avez eu, même sur des gains que vous n'avez pas cash out. Je rappelle également la base de la base, du moment que vous avez un non-custodial wallet, c'est-à-dire un MetaMask, un Rabi, un Ledger, ça n'est pas à déclarer à l'administration fiscale. On repart avec Goku et QMMM Holding Limited, une des premières sociétés finalement qui est en train de couler alors qu'elle prévoyait de lever 100 millions de dollars pour créer une réserve Bitcoin, Ether et Sol. Et ils ont déjà mis la clé sous la porte en toute discrétion après que les actions aient été multipliées par 9. Donc ça, c'est le lot de ce qui attend au cours de ce bear market tous ceux qui se sont lancés trop tard, ou tous ceux qui ont essayé de se convertir à la hâte alors qu'ils avaient déjà des difficultés financières. La réserve crypto, que ça soit Bitcoin ou autre chose, ne les ayant pas sauvés pour autant. On a un support on-chain donc qui serait au niveau du prix réalisé autour de 106,8 selon Axel Adler, et un autre autour de 100 000 avec la moyenne mobile simple à 365 jours. On a de nouveau 1,2 milliard qui ont été liquidés hier lorsqu'on a commencé à baisser un peu plus fort, hein, et notamment des longues pour près d'un milliard, et c'est 307 000 traders qui ont été touchés. Le marché des objets et skins dans Counter-Strike 2 pèse désormais 6 milliards de dollars en forte appréciation ces dernières années. En comparaison, le market cap des NFT est sous les 5 milliards et les cartes Pokémon, c'est 10 milliards en 2025. Le gap technologique sur les batteries devrait se produire dans les prochaines années. En effet, des chercheurs chinois annoncent avoir résolu l'un des principaux verrous technologiques des batteries solides. Ils annoncent désormais 1000 km d'autonomie dans à peine 100 kg de batterie. Des batteries solides qui vont alléger considérablement le poids des voitures électriques. Et donc, c'est un vrai cercle vertueux là pour le coup, puisque qui dit plus de légèreté dit plus d'autonomie. Et en plus, ces batteries vont proposer, de par leur conception même déjà de base, une autonomie, si on va à 1000 km pour 100 kg, c'est vraiment monstre. Ça veut dire que quelqu'un qui accepterait d'avoir 200 kg de batterie dans sa voiture, une voiture un peu plus lourde peut-être que les entrées de gamme, etc., ou des grosses berlines, on pourrait faire potentiellement 2000 km. C'est complètement fou. Vous avez un très bon biais également de Hawk Research sur pourquoi le marché crypto est tombé et tous les tenants et les aboutissants, que ça soit pour la crypto, la liquidité et les perspectives bancaires et américaines, puisqu'en ce moment, de nouveau, ça commence un peu à grincer des dents apparemment par rapport à des crises sur des banques régionales aux États-Unis. Donc je vous fais pas le dessin de ce qui s'était passé en 2008 au moment des subprimes, mais de nouveau on a des signaux un peu moisis qui ont l'air de sortir un petit peu la tête du bois. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre pour 2026. C'est pour ça que comme je vous le disais depuis cet été, quand bien même on avait des espoirs là pour cet automne, il faut continuer de jouer défensif jusqu'à ce qu'on ait un tout petit peu plus de visibilité, tout en ayant bien conscience que tant qu'on aura cette ère Trump, ça va être très très difficile avec un président qui peut faire ou défaire les marchés du jour au lendemain avec un simple tweet. Vous avez également Fineco, pareil, c'est très précis, c'est très bien aligné avec ce qui est en train de se passer, et surtout il a une profondeur au niveau des informations qu'il apporte sur le marché traditionnel qu'on voit quasi nulle part ailleurs. Et enfin, on clôture avec les valuations par secteur du S&P 500. C'était Mike Zaccardi qui poussait ça, et on voit à quel point la technologie aujourd'hui caracole en tête. Ensuite, on a le consumer discretionary qui arrive en seconde file, industriel, S&P 500, les staples, les services, utilities, matériel, l'immobilier. Là aussi, des fois, je vois passer des trucs autour de l'immobilier, mais n'étant pas du tout expert dans ce domaine-là, je me demande aujourd'hui, entre ceux qui font du FUD volontairement et s'il y a véritablement un problème, notamment tout ce qui est mortgage, etc. Aux États-Unis, ils ont souvent un système qui est un peu différent de chez nous, puisque ils sont très orientés, les Américains, sur le crédit. Déjà, pour les cartes de crédit, ils prennent quasiment tout à crédit. Et deuxièmement, quand il s'agit du logement, à partir du moment où ils ont des problématiques dans leur vie, dans leur santé ou que sais-je, vous savez que ils n'ont pas tous la chance, malheureusement, d'avoir des bonnes assurances santé ou d'avoir une sécurité sociale tout court. Et donc, ils vont devoir mettre en hypothèque la maison ou prendre d'autres crédits, etc. Vraiment, c'est très, très compliqué. Et aujourd'hui, apparemment, on re-rentrerait dans des clous qui ne sont pas tout à fait aussi importants qu'au moment des subprimes, mais qui ne seraient pas non plus positifs à minima sains par rapport à l'économie réelle. Donc, toujours pareil, 2026, attention, point d'attention sur ça. On a la santé, financière et énergie. Énergie qu'on voit, qui est aujourd'hui sur des niveaux tout à fait acceptables de 15 à peu près en PE, tandis qu'on est au double au niveau du forward PE sur la technologie, portée très largement par tous ces trucs Nvidia, l'IA et tout ce qui est énergétique. Donc, certes, aujourd'hui, on a eu un beau moteur de traction pour les États-Unis et ça s'est très bien passé ces dernières années. Est-ce que si ça se tarit un petit peu pendant quelques temps, on aura bel et bien ce passage de relais vers tous les autres blocs, quelque part, qu'on vient de voir, les verticales d'investissement qui, elles, n'en ont pas bénéficié aujourd'hui, puisque tous les regards étaient tournés à la fois vers les métaux précieux, vers l'or et vers la technologie. Voilà, c'est plutôt ça, le nerf de la guerre, en fait, à court terme. 107 000 $, on va espérer clôturer la semaine au-dessus des 107-108, puisque sinon, vous voyez, si j'enlève le petit trait rouge du dessus, que potentiellement, on a fait un double, voire un triple top ici, entre 125 et 126. Donc, j'espère vivement que là, ça tienne, puisque sinon, derrière, même en termes de moyenne mobile, vraiment la dernière qui puisse nous sauver, c'est la moyenne mobile 50. Elle est aujourd'hui à 101,7, et ensuite, on déroule jusqu'à la 100, et qui se trouve à 80K. Le support du printemps autour de 75 et la moyenne mobile 200 pour le très long terme qui est aujourd'hui à 54 000. Donc, Pour ceux qui attaquent le DCA, comme je disais en fin de la dernière émission la dernière fois pour Bitcoin, si vous voyez ça sur un an ou deux et que vous commencez maintenant potentiellement sur un top, oui, vos premières itérations du DCA pourront potentiellement, au cours d'un bear market, perdre jusqu'à 50%, 60% peut-être, de la valeur de ce que vous avez rentré aujourd'hui. Et c'est là où il faut bien jauger de votre côté, de si vous êtes à l'aise avec ça pour du long terme. Et quand le marché baissera et vous offrira potentiellement des opportunités, vous pouvez accélérer pour votre DCA si vous voulez faire ça de façon intelligente. Tout comme y en a qui se disent « Ok, j'ai payé à 100 000, peut-être on ira à 50 000 entre deux, mais je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, le Bitcoin vaudra plusieurs centaines de milliers de dollars. » Il y en a qui pensent comme ça et c'est tout aussi logique finalement de se dire, un peu comme dans la bourse traditionnelle, si je mets, je ne sais pas, 5 000 euros sur le S&P ou sur le World ou sur une action qui me plaît quelque part et dont je sais que le secteur est porteur, potentiellement la technologie, etc. Eh bien, même si j'achète un top aujourd'hui, à 5 ou 10 ans, normalement, tout ça aura été purgé et le cours de cette action ou de cet ETF devrait être plus haut. Donc, je sais qu'il y en a pas mal qui défendent le lump sum, c'est-à-dire d'investir en une seule fois, peu importe le prix. Dans le marché crypto, c'est un peu plus compliqué que ça quand même, parce que quand on voit les baisses qu'on peut se prendre au cours du bear market, y compris sur Bitcoin, c'est dommage de ne pas mettre un tout petit peu justement d'intelligence là-dedans au niveau de comment on fait nos courses et pour optimiser au long terme ce qui pourrait faire une grosse différence. La Bitcoin dominance qui est bloquée autour de 59 pour ne pas dire 60, donc pour l'instant statu quo, hein, on va composer avec et on voit que c'est pas du tout un cycle qui est propice aux altcoins. Le pire, c'est que ça, c'est en train de croiser bas sur les oscillateurs et tout ça. Donc, potentiellement, peu importe le prochain mouvement de Bitcoin, comme d'habitude, même s'il part à la cave, il va emporter sa dominance avec lui dans un premier temps. On croise les doigts pour qu'il ne parte pas tout de suite à la cave, bien entendu, mais à force de croiser les doigts, ça finit plus par ressembler à de l'espoir qu'autre chose. Donc c'est aussi ça que j'essaie d'éviter hein, finalement sur la chaîne, et qui m'a été aussi pas mal reproché ces dernières années d'être un peu trop neutre, voire pessimiste, comme certains l'appellent. 3600 milliards, donc là aussi, c'est la zone à ne pas perdre hein, finalement. On voit qu'on est en train d'aller retravailler dans la grosse mèche qu'on avait eue autour du 10 octobre. Donc pareil, si ça lâche, bien le vrai support pour le crypto total, il est à 3000. Donc ça fait quand même 20% de moins de nouveau à perdre pour le crypto total. Ceci étant dit, ça serait une purge intermédiaire qui permettrait peut-être, de, au vu justement du fait que les alts se sont déjà fait éclater ce 10 octobre, de ne pas aller si bas au cours du futur bear market que ce qu'on pourrait le pressentir. Bon voilà, ça reste comme d'habitude je réfléchis à voix haute en même temps que je vous en parle, mais c'est quelque chose qui peut faire sens d'avoir un bear market en effet qui sera moins appuyé, puisque dans tous les cas la liquidité aujourd'hui, certes elle est fragmentée quand on parle des shitcoins, mais quand on parle des grosses caps et notamment Bitcoin, elle est beaucoup moins fragmentée qu'avant, et surtout il y a les ETF, les professionnels, les institutionnels. Si vous leur redonnez un Bitcoin à 50, 60, 70K, je pense que pour du long terme, ça risque de sacrément les intéresser. 3900 pour Ether, donc là aussi, on aimerait tenir les 4000, 4100. Hein. Si on repasse en dessous, on va se mettre les petites moyennes mobiles en plus des supports dynamiques, mais on voit qu'on est en train de travailler la 20 hebdo à 3007 et ensuite on a la 50 et la 100 qui sont beaucoup plus bas, autour de 3000, 3100, avec le support, lui, qui est à 2009 et le support long terme, comme vous le savez, ça a été la zone de pivot et de travail depuis des années et des années, est autour de 2100-2150 pour Ethereum. Donc lors d'un bear market, ça nous ferait passer sous la moyenne mobile 200, qui aujourd'hui est bien plate autour de 2450. Ça serait pas déconnant pour du long terme. Et comme je le disais la dernière fois, l'hérésie de ce cycle, le trauma résidera de ce fait où on est passé en décembre 2024 d'un Ether à 4000-4100 et on s'est retrouvé en avril 2025 sous les 1400. On est revenu travailler le point haut de janvier 2018. C'était complètement fou pour le coup et je pense que au-delà du fait de ne pas avoir gagné d'argent sur des altcoins un peu plus exotiques sur ce cycle, même Ether aura littéralement pulvérisé des portefeuilles. Le VIX qui s'est fait complètement repousser, donc on avait quand même eu un ping autour de 30, c'était encore bien loin des 60 à 65 qu'on avait eu sur les excès précédents, voire même en 2020 on était monté quasiment à 80+. Donc à chaque fois que ça rentre dans la box des 36 à 60 et plus, ça veut dire qu'on a de la volatilité. Souvent, c'est de la volatilité négative, c'est que le marché est en train de dégobiller ses tripes et pour nous, c'est le moment opportun quand le Vix rentre dans cette grande box très haute, sur un fond de peur immense et de sang dans les rues, comme ils disent dans la bourse traditionnelle. Voilà, même si dans ces moments-là, c'est un peu contre-intuitif quand tout baisse dans des proportions monstres de devoir mettre la main au portefeuille, la plupart du temps, ben, c'est dans ces instants-là qu'on fait les meilleurs coups, bien entendu. Et psychologiquement, c'est très dur. Hein. C'est très dur de ne pas acheter quand tout monte, quand tout est dans le vert, exactement comme le gold actuellement. C'est très dur d'acheter quand tout est en train de descendre, des moins 20, moins 30, moins 50. C'est des moments où on n'a pas forcément envie d'acheter, on n'est pas dans le mood. On voit les portefeuilles au global qui sont en train de reculer dans des proportions monstres. Donc vraiment ça, il n'y a que l'expérience au travers du temps qui puisse nous faire quelque part penser différemment. Et même avec l'expérience et les années, ça reste quand même assez difficile. Le gold, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, qui a tapé les 4 380 $ l'once, on voit à quel point un RSI, que ça soit en hebdo ou en mensuel, peut rester au perché pendant très longtemps. Vous en avez ici un exemple complètement fou, puisqu'on est désormais sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines de hausse consécutive. Il y avait une personne sur Twitter qui disait la dernière fois que le gold n'a jamais enregistré plus de 9 semaines de hausse consécutive dans toute son histoire. On va voir si cette fois sera différente ou pas, mais en tout cas, c'est un truc de plus qui fait que je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont un très bon trade dans le gold, peut-être le but là en l'état, c'est de s'alléger. C'est également le cas du platine, du palladium et de l'argent qui reculent respectivement de 17 et 4,3%. Les taux américains qui rebondissent, donc on a le 2 ans à plus 1,23, on a le 5 ans à plus 1,41, le 10 ans à plus 1% et enfin le 20 ans à 0,53, tandis que le 30 ans reprend 0,46 et il est désormais à 4,6. Donc c'est ce que je vous disais, ça aussi pour l'obligataire la dernière fois. Je ne sais pas si ça restera aussi haut très longtemps à partir du moment où la Fed va baisser ses taux, mais on a des taux qui tankent très dur, même le long terme, et on n'est vraiment pas dans cette dynamique qu'on avait pu avoir à l'époque, ben, au moment justement du crack Covid, où on était passé de quasiment 2,4 à des taux qui à un moment étaient quasi négatifs, ou du moins pour les États-Unis, on était autour de 1, on est descendu à 0,7, voilà. Mais bon, pour ceux qui étaient là en 2020, notamment qui ont pris des prêts immobiliers, etc., eh bien, vous aviez des prêts entre 0 et quelques et 1% à peu près, donc vraiment ceux qui avaient les reins solides là en 2020, et malheureusement pour les crypto bros, on était encore tous broc en 2020 pour la plupart, ceux qui ont été de la vague 2019 et après, donc j'ai pas eu la chance d'être sur la vague 2017-2018 malheureusement, et même 2018 j'ai commencé à mettre mon argent et j'en ai perdu une énorme partie pour le coup. Donc c'est vrai que la vague d'après, eh bien voilà, on a commencé à gagner de l'argent en 2021 et peut-être un petit peu après, et donc 2020, les taux exceptionnels à 1%, etc. Je pense qu'il y a très très peu d'investisseurs de cette vague-là qui en ont profité, si ce n'est ceux qui déjà avaient les reins solides au préalable, et c'est comme ça que ça a créé des fortunes voilà, mirobolantes, et que les milliardaires sont devenus toujours plus riches, et que des nouveaux riches aussi sont apparus. DXY98.5 inexploitable pour l'instant, mais je parie sur le fait que le dollar nous fasse une carabistouille rebond en 2026 pour le coup. Les sociétés liées au minage et aux crypto, voilà, on va attendre que la tempête passe parce que là on n'a pas du tout de visibilité, et comme on le voyait la dernière fois sur AltBG, certes il a déjà perdu pour ceux qui sont sur les PEA français, et ça représente le risque ultime, ça il faut le considérer comme un énième shitcoin finalement, moins 89%, donc bon, c'est après une appréciation en milliers de pourcents, on est d'accord. On verra au moment où les oscillateurs vont finir par se poser, et peut-être que bah, si le Bitcoin ne part pas à la cave de suite, on voit qu'on a une zone de polarité par ici à peu près justement entre 0,60 et 0,70, 0,75. Mais bon, ça reste quand même somme toute compliqué, puisque si on part en bear market, c'est un truc que vous allez retrouver très potentiellement de 0,72 € aujourd'hui à quelque part, si ça se passe bien, 0,25, et si ça se passe pas bien, vous le retrouvez au prix de départ 0,08. Donc vous avez perdu de nouveau 80-90% de l'argent que vous aurez mis, alors même qu'il a déjà perdu 90%. Je ne sais pas si on se rend compte du délire, mais ça aussi, c'est un truc qui mentalement, J'ai mis des lustres à vraiment me faire la projection et à me représenter ce que c'était d'avoir les pourcentages comme ça où on peut perdre énormément, même en se disant « Ok, ce truc a perdu déjà moins 90, on se dit « Je risque plus grand-chose bah, ». Finalement, pensez comme ça, quand vous voyez ce que vous risquez de perdre, notamment sur un actif comme ça, eh bien oui, on peut reperdre très facilement, comme le montre ce graphique, moins 90% supplémentaire après un moins 90% sans problème. Donc, ce n'est pas des pourcentages qui s'additionnent, bien entendu, mais c'est juste pour dire que pour passer de moins 90 à moins 99, donc les derniers 9%, bah en gros, de nouveau, j'ai pas le chiffre exact en tête, donc attrapez pas ma veste les mathématiciens dans mes commentaires. Mais en gros, voilà, on peut reperdre une somme assez conséquente, voire quasiment tout son investissement. Donc comme d'hab, ça aussi, lors du bear market, j'attire votre attention sur ça. Je dis pas qu'on n'y est pas, mais le jour où on y re-rentre, attention de ne pas rentrer trop tôt, que ça soit sur Bitcoin, sur Ether, sur les alt, prenez le temps. Si vous faites un DCA du côté de Bitcoin, aucun souci, bien entendu, vous faites vos emplettes toutes les semaines ou tous les mois, voire même il y en a qui font un DCA journalier, c'est complètement fou. Et derrière, voilà, ensuite, une fois que le marché s'est posé, là, on commence à un petit peu mieux y voir. Et c'est exactement l'opposé qui nous est servi aujourd'hui. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on navigue franchement à l'aveugle et c'est assez désagréable, le tout porté, hein, comme on disait, par une administration qui finalement pourra faire la pluie et le beau temps. Donc, on est obligé de composer avec pour les prochaines années. Les actions américaines, j'ai pas vu grand chose de plus, ni même sur les actions françaises. Et les altcoins, comme je vous disais, c'est très difficile là en l'état si on est aux portes potentiellement d'un marché baissier. J'espère pas que ça arrivera immédiatement, mais comme je disais, entre les espoirs et les rêves qu'on a par rapport à ce marché et ce qui pourrait arriver demain, voilà, pour l'instant, on est quand même sur une zone clé, je pense. On est aussi sur un momentum, sur un timing où on est pile poil dans les clous de la fin des derniers cycles. Le truc le plus fou même, c'est qu'il y avait ce gars là dans un forum, je sais pas si c'est 4chan ou un autre forum, qui avait dit « Ok, le 6 octobre, ça fera le prochain top en 2025 ». Et il avait marqué ça sur un forum il y a des années. Donc franchement, au bout d'un moment, les mecs qui comptent les jours, et là le compte n'était pas bon apparemment, enfin il avait fait des calculs d'apothicaire comme d'hab, mais de se dire ne serait-ce que d'être dans une fourchette de si le cycle a bel et bien en top sur cette cyclicité pile poil de 4 ans, c'est complètement barge. Donc aujourd'hui, on ne peut pas écarter ce fait-là que le marché crypto est potentiellement topé. Et d'un autre côté, ben, je pense qu'effectivement, ceux qui disent que cette fois sera différente ont un tout petit peu raison, peut-être pas encore totalement, puisque certainement que dans les prochaines années, le marché crypto va finir sa mutation. Le Bitcoin continuera d'être un actif qui sera représenté dans les portefeuilles de gestion, de gérants, de fonds de retraite désormais du côté des États-Unis. La seule question, le modulo par rapport à tout ça, c'est comment ça se passera lorsqu'on ne sera plus sous l'administration de Trump, du moment que eux auront fait beaucoup trop pour cette industrie et notamment pour leur enrichissement personnel. J'ai bien peur qu'on se prenne un boomerang, mais ça sera plutôt autour de 2028-2029, voire même sur 2030 et après. Donc on n'y est pas encore, on prend les choses comme elles viennent et je pense qu'aujourd'hui le seul but, c'est de faire survivre notre capital suffisamment longtemps sur les marchés pour tout simplement tirer la quinte essence de ce qui se passe de temps en temps quand on a un Nvidia, quand on a un bull run sur Bitcoin et les cryptos, quand on a un bull run sur le gold. Vous voyez qu'on peut avoir d'autres classes d'actifs et que les bull runs à tour de rôle font un peu les chaises musicales. C'est pas tout le temps le même actif qui est mis en vedette. Aujourd'hui, c'est pas les actifs à risque. C'est pas tout à fait les cryptos, c'est pas les altcoins. Peut-être que demain ça reviendra. On voit qu'on a eu un marché porteur sur les objets de Counter-Strike. Pokémon, c'est reparti de plus belle. Donc voilà, les montres aussi, c'est en train de bottom pour le coup d'ailleurs. Ça fait quelques temps que les montres de luxe sont en train de faire leur point bas par rapport à 2021-2022. Vous voyez le temps que ça a pris. Donc je pense qu'il faut tout simplement être dans cette patience long terme. Ne pas se mettre forcément des œillères si on n'a pas investi sur les bons trucs ou les bonnes verticales ou les bons sujets, mais aussi d'être suffisamment patient pour laisser sa chance de temps en temps aux choses dans lesquelles on avait des investissements avec conviction. Très bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.